Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Humaniser le soin, histoire d'une psychiatrie libératrice. Cette histoire-là est celle d'une aventure médicale, intellectuelle, d'une aventure humaine aussi, faite d'échanges, d'imagination et de soucis de l'autre. Elle nous conduit en Lozère, dans un château, celui de Saint-Alban. Saint-Alban sur Limagnole, nous partons dans le Gévaudan.
Cette semaine, je vous emmène sur les hautes terres de la région Languedoc-Roussillon, tout au nord. C'est là que sévissait une bête féroce qui mangeait et tuait les enfants et les femmes. Cela se passait au XVIIIe siècle, on parlait de la bête du Gévaudan. Le Gévaudan, c'est un territoire qui aujourd'hui est à cheval sur la Haute-Loire, la Lozère et un tout petit peu le Cantal. Je pense que le plus approprié pour découvrir cette nature sauvage, subtile et variée, eh bien c'est de marcher. Il existe une multitude de chemins, des chemins de colporteurs, des chemins de pèlerins et des chemins de randonneurs du dimanche, comme la boucle que je suis en train d'effectuer qui fait 7 km et qui vous permet de découvrir le hameau du Rouget, de passer devant la ferme de la Bessière et de pousser jusqu'au faux de Saint-Alban.
Saint-Alban, en Lozère, ici une présentation 2009 sur FR3. Bonjour Camille Ropsis.
Bonjour Xavier Mauduit.
Drôle de région, le Gévaudan, la Lozère, Saint-Alban, vous y avez été ?
J'y suis allée en effet, c'est pas facile d'y arriver.
C'est loin, c'est un peu isolé.
Ouais, il fallait louer une voiture et puis je crois que justement on en reparlera, mais le fait d'être isolé a vraiment contribué à l'émergence de ce mouvement. Je crois qu'ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient et surtout ils se sont retrouvés là sans pouvoir trop bouger. L'isolement a contribué à ce mouvement.
J'aime beaucoup que vous mettiez cette part de mystère d'isolement avec ces gens qui ont fait quelque chose à cet endroit-là, parce qu'on n'y arrive pas par hasard à Saint-Alban. Gros château là-bas.
Voilà, un château en fait qui a été utilisé comme hôpital psychiatrique et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que se recueillent des divers personnages qui en fait mettent en place les fondements théoriques et pratiques de la psychothérapie institutionnelle.
Alors cette psychothérapie institutionnelle, il va falloir nous la présenter Camille Ropsis. Camille Ropsis, vous êtes historienne enseignante à l'Université de Columbia, c'est aux États-Unis, et vous publiez « Désaliénation, politique de la psychiatrie » avec cette publication, ce sont des gens que nous rencontrons, c'est un lieu aussi, on l'a évoqué, Saint-Alban, ce château en Lozère, et puis cette... psychiatrie institutionnelle, comment ça s'appelle ?
Psychothérapie institutionnelle.
Ça veut dire quoi ?
Je crois que ça, c'est la question la plus difficile que vous me posez dès le début. Mais peut-être une façon de simplifier leur programme, c'était de se dire que la psychiatrie, en fait, qui s'intéresse à la folie n'est pas seulement le produit de déterminisme biologique ou neurobiologique, mais plutôt d'une interaction avec des facteurs sociaux, des facteurs familiaux, des facteurs politiques. Et donc l'idée de la psychothérapie institutionnelle, c'est de prendre en compte tous ces divers aspects, le côté médical, mais aussi le côté social, le côté psychique, et de proposer donc des pistes pour désaliéner les patients. L'idée de base, c'était que l'aliénation donc avait toujours ces deux piliers, le côté social et le côté psychique. Et donc Tosquelles, on reparlera de lui, disait toujours que la psychothérapie institutionnelle avait deux jambes, Marx et Freud, parce que Marx pouvait nous aider à penser l'aliénation sociale et Freud l'aliénation psychique. Et donc la désaliénation devait passer à travers ces deux chemins.
Et d'ailleurs, le nom de Tosquelles apparaît sur la couverture de votre ouvrage publié aux éditions du Seuil. François Tosquelles, qui est-il ?
Alors, François Tosquelles était un psychiatre catalan, né en 1912 à Reus, au sud de Barcelone. Et c'est un personnage vraiment très intéressant qui, dans sa jeunesse, milite au PUM. Donc le PUM était un des groupes gauchistes, marxistes de l'entre-deux-guerres en Espagne et qui, en fait, voulait prêcher la décentralisation, le fédéralisme et était surtout très anti-stalinien. Donc s'opposait au parti communiste espagnol qui jugeait trop fidèle à Staline. Et voilà, donc le PUM était très important pour Tosquelles. Il était très jeune, il avait une vingtaine d'années, il milite dans le PUM. Et au même temps, il commence des études de médecine. Et là, il décide de se spécialiser en psychiatrie. Il est un grand lecteur. À cette époque, Barcelone est souvent appelée une petite Vienne parce qu'il y a beaucoup d'émigrés d'Europe de l'Est qui se retrouvent là-bas. Donc, il fait une analyse et il lit beaucoup de psychanalyse en parallèle avec ses études de médecine. Et c'est là, en fait, qu'il découvre la pensée de Freud et qu'il découvre aussi la pensée de Jacques Lacan. Donc là, on parle vraiment du tout premier Lacan, puisque Lacan, dans les années 30, a juste publié sa thèse sur, justement, la psychose. Et c'est cette thèse qui devient très, très importante pour Tosquelles. Donc voilà, donc Tosquelles est en Espagne. campagne.
Dans un contexte de guerre civile. Hein.
Exactement. Donc en fait, la guerre civile éclate. Le POUM a juste quelques années. Et Tosquelles se bat au même temps contre les forces franquistes, mais aussi contre le Parti communiste espagnol, puisqu'il se distingue de ces deux mouvements. Et donc, il combat du côté des républicains. Il part en guerre, il est envoyé au front. Et c'est là, en fait, qu'il commence à pratiquer une espèce de psychiatrie de guerre au front, où il se rend compte que c'est important de traiter non seulement les combattants, les soldats, mais aussi les généraux, tout le monde, qu'en fait, il faut traiter le collectif, soigner le collectif. Et donc, après la guerre, il se retrouve en fait, dans un camp de concentration, parce qu'il s'exile, donc avec la victoire des forces franquistes, il s'exile en France, il traverse les Pyrénées, et là, il arrive dans un camp qui s'appelle Sept Fonds, à côté de Montauban.
Camille Ropsis, vous le racontez très bien, mais il y en a un autre qui le raconte très bien, c'est lui-même, François Tosquelles.
Alors, vous, François Tosquelles, vous êtes arrivé quand ici, à Saint-Alban ?
Exactement le 6 janvier 1940.
Et comment alors vous avez atterri ici? Vous nous racontez cette histoire?
À pied,
oui.
Je suis arrivé ici, venant du camp de concentration de
Saint-Fons.
Je suis arrivé là par une série d'enchaînements d'hasard, quoi. Mais un jour au camp de concentration, où j'avais un service psychiatrique, créé de toutes pièces avec notre confrère et surtout avec beaucoup d'autres concentrés.
On dit concentrationnaire. Ils peuvent être aussi concentrés, mais on dit concentrationnaire.
Bon, mais le concentrationnaire, ça c'est parce que les Français savent parler.
D'accord.
Concentrationnaire, ça veut dire celui qui fait la concentration, quoi.
Qui l'a subi aussi parfois.
Oh, mais tout le monde subit sa concentration. Parce que tout le monde est concentré. Centré sur le con, quoi. Bref. Ce que je veux dire, que le concentrationnaire, c'est le type au pouvoir. Tandis que les autres sont de concentrés. Proposer ça à la Real Académie Française, quoi, qui modifie son... C'est texte, quoi, vous comprenez?
Ben oui, on comprend très bien, on va proposer ça à l'Académie française. C'est en 1989, sur France Culture, que François Tosquelles s'exprimait. Alors, autour de son arrivée en France, dans un camp de concentration, qui le fait dériver sur les mots de concentration, concentré, concentrationnaire. Ça vous a beaucoup fait rire, Camille Ropsis?
Ça m'a fait rire. C'est assez émouvant d'entendre sa voix, mais ça me fait rire parce que, en fait, Tosquelles, comme vous l'avez entendu, parlait très mal. Enfin, il avait toujours cet accent catalan en français, hein, qu'il a toujours gardé. Et il avait le même accent, en fait, en castillan. Et moi, quand j'étais voir des amis à Barcelone, j'aurais dit, en catalan, il doit parler parfaitement. Et en fait, il paraît qu'en catalan, on le comprenait pas non plus. Donc, je crois que ça faisait partie un peu de sa perspective. Il fallait pas être très bien compris dans la vie. Il fallait toujours laisser que les gens, comme il dit, il faut que ça parle. Il faut que les gens se demandent ce qu'on dit, etc. Et puis réfléchissent aux mots concentrationnaire, concentrationniste, Donc, ça, c'est pour ça que cet archive m'a beaucoup plu. Mais oui, en effet, il arrive à cette fond. La légende, c'est qu'il amène avec lui, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il amène deux livres avec lui, la thèse de Lacan de 1932 sur le cas aimé, et l'autre, c'est un livre d'Hermann Simon, un psychiatre allemand. Et donc, il arrive en France, il est placé dans ce camp de concentration où les conditions de vie sont vraiment tout à fait déplorable. Les détenus sont entassés dans de la paille avec des conditions sanitaires vraiment très mauvaises. Et donc, c'est là où Tosquelles commence à penser justement ce qu'il appelle ici dans cette archive le concentrationnisme, les effets concentrationnaires des institutions, des camps, les détenus qui commencent à avoir tout type d'effets psychiques, qui sont conduits au suicide, qui sont déprimés. Et il y a toutes ces nouvelles maladies en fait, de guerre qui apparaissent pendant cette époque, même la maladie de fil de fer, etc.
Donc, c'est quoi, excusez-moi,
c'est quoi? Je crois que c'est une espèce de traumatisme d'être entouré de fils barbelés. Et ça cause. Il y en a une qui est très spécifique de cette région qui s'appelle Arenitis, donc de Arena en espagnol. Je crois que c'est plus les camps qui sont à côté de Narbonne où le sable, en fait, arrivait dans les yeux et rendait fou. Donc, comment traiter toutes ces nouvelles maladies? Et c'est ça. Et Tosquelles dit en effet qu'il fonde en effet une infirmerie, un service psychiatrique. Et là, il est dans. Il n'y a pas d'autres médecins, donc il est tout seul et il recrute des artistes, des écrivains, des musiciens pour faire avec lui des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et il se rend compte que les gens vont un peu mieux. Et en fait, cette expérience dans le camp est très très importante pour lui. Il dit ensuite que c'est là où il a fait de la très bonne psychiatrie dans la boue, puis qu'il se rend compte en fait qu'on peut faire de la psychiatrie un peu n'importe où. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est qu'il se rend compte que l'institution, donc le camp ou l'hôpital, a des effets aliénants. Et donc, il faut savoir les traiter et savoir, justement, enfin, essayer de mettre des mécanismes en place pour qu'ils soient désaliénants.
Et désaliéner le camp lui-même.
Exactement.
Pour aider les gens. Et vous nous l'avez dit que la psychiatrie, enfin, sa démarche peut être appliquée partout, mais on va dire avec n'importe qui aussi, parce que vous parlez d'artistes, des gens qui, de bonne volonté, acceptent cette démarche-là, ben, ça peut aider les autres.
Exactement. Donc il y a évidemment une spécificité médicale, enfin le médecin a quand même un certain savoir, mais en même temps, ce qui l'intéressait, c'était de remettre en question cette expertise d'une certaine façon, et de voir comment, bon, une des techniques qui est très importante pour lui, c'est le transfert psychanalytique, qui en fait, quand Freud invente la psychanalyse à la fin du 19e siècle, il n'est pas très sûr que sa technique va marcher avec les psychotiques, puisque les psychotiques ont une approche au langage différente, une approche symbolique différente. Et donc, en fait, l'innovation, si l'on veut, de la psychothérapie institutionnelle, c'est de dire, eh ben, la psychanalyse, en fait, peut être très efficace pour soigner des patients psychotiques. Il faut juste repenser cette question de transfert. Donc, pas nécessairement faire une psychanalyse avec un analyste et un analyse, enfin, une personne en analyse intersubjective, mais plus repenser le transfert dans ce collectif.
Oui, parce que le transfert n'est pas possible dans toutes les conditions. Il y a ça. Exactement. Aussi. Quelqu'un qui est considéré à ce moment-là, on utilisait le mot fou,
oui,
ou le mot aliéné, ne peut pas participer à cette démarche d'analyse qui va permettre un transfert. Donc, faut inventer autre chose.
Exactement. Et alors, et eux, alors ils disent que, selon des gens comme Tosquelles ou comme Moury, ils parlent d'un transfert éclaté ou d'un transfert, d'une constellation transférentielle. Alors, bon, comme je suis historienne, je suis pas clinicienne, je sais pas, je pourrais pas vous dire comment ça marche exactement, mais l'idée, c'est que justement on peut avoir un transfert avec des objets, avec d'autres personnes, avec un collectif, plus que avec un analyste.
Oui, c'est ça, l'idée du collectif, elle est au cœur de l'histoire que vous racontez avec cette personne, François Tosquelles, qui a une vie d'aventure, qui a un humour considérable, on l'a déjà entendu, qui se trouve dans un camp de concentration au sud de la France. Comment arrive-t-il à Saint-Alban, qu'on a présenté tout à l'heure en Lozère?
Alors, donc, il se retrouve, comme il a dit dans son archive, il arrive à Saint-Alban en 1940. En fait, avec son expérience dans le camp à sept fonds, on commence à parler un peu de lui dans les milieux médicaux. Et c'est à travers un ami du directeur Paul Balvet de l'hôpital de Saint-Alban à l'époque qui l'appelle et lui demande de venir rejoindre son équipe médicale à Saint-Alban. Alors, le contexte ici est très, très important. Nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, donc pendant l'occupation. Et il s'agit aussi d'un vrai désastre humanitaire dans les hôpitaux psychiatriques de l'époque. Donc en Allemagne, on connaît tous le cas allemand, ce que le régime nazi appelle l'action T4. Donc l'euthanasie et l'eugénisme, et l'euthanasie de ce que le régime nazi appelait les malades incurables, qui a fini avec 200 000 morts. Et en France, il y a tout un débat historiographique autour de Vichy. Est-ce que Vichy avait une politique d'extermination ou pas? Mais le fait est qu'il y a 40 000 malades qui sont morts dans les hôpitaux psychiatriques français pendant cette époque. Donc Saint-Alban essaye à l'époque vraiment de survivre, en fait, de garder en vie les patients, d'accumuler assez de nourriture, assez de chauffage, etc., pour pas que les patients meurent. Et c'est dans ce contexte que Tosquelles donc arrive à Saint-Alban, et il se retrouve là avec encore une autre forme de concentrationnisme après la guerre d'Espagne, après le camp, avec l'occupation allemande.
Et puis là, il se retrouve à Saint-Alban, et il faut le rappeler, hein, ce lieu-là est déjà un lieu de soins. Alors, je sais pas si on peut parler de soins à ce moment-là. Présentation de Saint-Alban par l'infirmier général qui se souvient comment c'était avant 1936.
Alors avant 36, ça ressemblait à quoi l'hôpital?
Alors avant 36, l'hôpital qui était alors l'asile d'aliénés, je dis bien aliénés, parce qu'aujourd'hui on parle d'asile psychiatrique, quoi. Mais enfin, à ce moment-là, c'était l'asile d'aliénés, où le malade n'était autre qu'une personnalité dans l'hôpital, simplement qui était là gardée par des gardiens d'ailleurs, nos ancêtres c'était tous des gardiens, et qui particulièrement, on avait la mission que de subvenir aux besoins de l'hôpital.
Et les conditions de vie des malades?
Bon, ils mangeaient, ils buvaient. Bon, ils étaient dans des pavillons de 30, 40 ou 50 hospitalisés.
Ça ressemblait à une prison? Ça ressemblait à quoi?
C'était pratiquement une prison. Chaque matin, on sortait les malades qui étaient en cellule, on les faisait tourner dans la cour comme dans toutes les prisons d'ailleurs. Et puis on les faisait rentrer de nouveau dans les cellules. Ils étaient alimentés. La tenue dans la prison, elle était à poil, évidemment, elle était à poil. ce qui n'était pas très intéressant, surtout pendant les rigueurs de l'hiver. Mais enfin, c'était ça les consignes de l'époque.
En 1982, Marius Bonnet, infirmier général de Saint-Alban sur France Culture. C'est terrible, hein, Camille Ropsis, quand on entend cela, parce que nous sommes avant la Seconde Guerre mondiale, avant cette horreur que vous avez rappelé, et avec raison, ces dizaines de milliers de personnes qui meurent de faim. Mais la situation était déjà terrible avant, enfin, selon notre point de vue d'aujourd'hui.
Tout à fait. Et cette archive est très intéressante. Marius Bonnet était justement un infirmier qui s'est beaucoup impliqué dans les débuts de la psychothérapie institutionnelle. Et il raconte aussi dans d'autres entretiens comment, en fait, je crois que c'était lui qui était en Allemagne, qui est dans les STO, enfin, et le fait de revenir à l'hôpital psychiatrique et de voir que les conditions de l'hôpital sont les mêmes que les camps de concentration, et ben ça pose des questions et ça l'encourage à se joindre à cette aventure qui s'appellera la psychothérapie institutionnelle, qui s'appelle pas encore comme ça, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Il faut se remettre dans un contexte où ce qu'on appelait les aliénés à l'époque étaient attachés aux arbres, attachés à leurs lits, traités comme des bêtes, et donc encore une fois, la question, c'était de... déjà, la question, en 1939-1940, c'est d'essayer de survivre. Donc, et après, du coup, de repenser les bases du soin psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire de soigner un patient? Qu'est-ce que ça veut dire de soigner un hôpital? Comment penser la folie? Quelle place pour les fous dans la société? Et aussi, je crois qu'il y a une troisième dimension dans tout ça, c'est aussi la question du fascisme, de comment la psychiatrie a pu s'accommoder de ce côté génocidaire, je dirais. Donc la psychiatrie était politique, même si elle se disait scientifique, détachée du politique, etc. Là, tout à coup, elle s'est vraiment trouvée prise dans la politique, tout au moins dans le cas allemand. Et puis aussi le fascisme en général. Je crois que tous ces médecins s'intéressaient au fait que, selon eux, le fascisme demandait un certain esprit, un état d'esprit. Ce n'était pas juste des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons sociales qui poussaient les gens vers le fascisme, qui avait aussi des raisons, je pourrais dire, psychiques, et qu'il fallait essayer de les comprendre, et que pour ça, la psychanalyse pouvait nous être utile.
Et là, on comprend pourquoi le fait que Saint-Alban soit isolé en Lozère a permis à tout cela de se développer. Alors déjà, isolé, je pense au ravitaillement, oui. Ça a permis notamment de nourrir toutes les personnes qui étaient dans cet hôpital.
Oui, voilà, et puis il y a beaucoup d'histoires où ils ont appris à cultiver les terres, ramasser des champignons, planter des fruits, enfin des choses comme ça, et puis aussi avec l'aide des villageois. Les villageois ont beaucoup participé à cette aventure, enfin d'essayer de stocker assez de vivres pour nourrir les patients. Donc c'était vraiment quelque chose de collectif.
Avec aussi cet isolement qui permet peut-être d'échapper à la surveillance des nazis qui sont quand même en train d'occuper la France et qui laissent un personnage comme François Toscaillas qui a fui l'Espagne, qui était membre du POUM. Alors c'est pas rien quand même, il ne correspond pas à ce que l'on pourrait attendre d'un médecin pour un nazi et on le laisse tranquille. En tout cas, il arrive à rester discret.
Oui, et je n'ai jamais vraiment très bien compris comment on les a laissés faire. Parce qu'il y avait des résistants qui étaient là, il y avait aussi, il paraît qu'ils cachaient certains juifs, donc il y avait des poètes, il y avait des artistes, il y avait des républicains espagnols, donc c'était pas vraiment le régime de Vichy avait toute raison de venir intervenir dans le château. Et en fait, une des explications, c'était que Paul Balvé, le directeur de l'époque, avait des sympathies pétinistes, qui après il a renié après la guerre, et donc c'est un peu comme ça qu'on le laissait faire. Après, moi j'ai vu une archive ou deux où les services de renseignement demande, par exemple, avait déjà l'œil sur ce château. Mais en fait, je crois que, comme vous dites, l'isolement, on les a un peu laissés faire. Bon, après, Vichy, le régime de Vichy n'avait pas les yeux partout aussi, c'est ça, je crois. Donc, ils ont pu un peu faire leurs expériences. Mais c'est sûr que vu de cette perspective, c'était vraiment assez radical ce qu'ils faisaient.
Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, justement ?
La première chose qu'ils font, c'est donc, comme je disais, repenser les bases du soin. Et pour ça, c'est ancré dans une pratique très concrète. La première chose qu'ils font, c'est déjà de détruire les murs de l'hôpital. Donc du château. Ils donnent aux patients des marteaux et tout le monde se met à détruire les murs. Et donc, tout à coup, l'hôpital est intégré dans le village. Les fous se promènent, les villageois rentrent. Donc, il y a déjà ce côté du lieu qui est changé. Et aussi, les cellules sont... Ils détruisent les cellules. Donc, tout le monde dort dans un grand dortoir. Tout le monde mange ensemble, y compris les médecins. Donc, tout ça, c'est l'idée, c'est justement de créer un nouveau collectif. collectif. Et ensuite, ils mettent en place tout type de d'expériences, alors des pièces de théâtre, des concerts, des activités sportives, des bals et des ateliers d'ergothérapie, de menuiserie, d'art, etc. Et toutes ces activités justement font émerger un nouveau collectif, offrent de nouvelles potentielles, nouveaux transferts potentiels. Et c'est comme ça en fait que petit à petit se développe la psychothérapie institutionnelle.
Avec la question première, qu'est-ce qu'un fou ? Eh ben, réponse par François Tosquelles.
François Tosquelles, qu'est-ce qu'un fou ?
Un fou ? Ben, c'est ce que nous sommes tous, c'est-à-dire un mystère, quoi. Une personne qui aimerait bien la clarté et l'authenticité, mais qui n'y arrive pas, comme nous tous, quoi. Moi, j'aime pas parler de fou, hein. Si faut parler comme un psychiatre, je dirais, bon, le malade mental, quoi. Hein? C'est un type que, précisément, ne peut pas exploiter sa folie, quoi. Hein? Et à partir de ce moment-là, comme vous avez dit, mais tout de suite, je vais établir une nuance, qui ne communique pas avec les autres. Hein? Or, c'est la caractéristique humaine, ça de ne pas communiquer. Hein? Je crois connaître un cinéaste italien, qui en a fait toute une théorie de sa pratique, Antonioni. Il sait très bien ce qui est vrai, qu'on ne communique jamais avec l'autre. Il faut être américain pour croire qu'on communique avec l'autre.
Oui, c'est ça. En 1988, sur France Culture, la définition d'un fou par François Tosquelles. C'est très amusant hein, de se dire, mais là, c'est presque une projection sur nous-mêmes. Considérer que celui-ci ou celle-là est fou ou folle, c'est un peu se poser la question à nous-mêmes.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté où, pour Tosquelles, encore une fois, l'aliénation est constitutive. Nous sommes tous aliénés d'une certaine manière. Donc, en effet, nous sommes tous un peu fous. Et pour ça, il s'était beaucoup inspiré, je crois, de l'œuvre de Georges Canguilhem, du normal et le pathologique. Georges Canguilhem, d'ailleurs, qui se retrouve à Saint-Alban pendant la guerre, un petit peu pendant quelques mois. Il est ami de Lucien Bonafé. Ils sont dans la résistance ensemble, dans le maquis. Et donc, à l'époque, il est en train d'écrire sa thèse, le normal et le pathologique. Et là, il met justement en question ces idées de normal et le pathologique n'est que défini par rapport au normal et vice-versa. Donc, et il parle justement, par exemple, de la possibilité d'autres formes de vie. Donc la folie peut-être comme une autre forme de vie et pas nécessairement comme une pathologie. Alors après, c'est compliqué parce que Tosquelles, il y avait cette explosion de la notion d'aliénation tout en gardant une conception assez limitée de la maladie mentale, ce qui va différencier la psychothérapie institutionnelle de l'antipsychiatrie, on y reviendra peut-être, mais l'antipsychiatrie que l'on connaît comme Cooper, Lang en Angleterre ou Basaglia en Italie, selon la psychothérapie institutionnelle, ce courant avait tendance à réduire la folie à sa dimension sociale et oublier la spécificité médicale. Donc sur ce point, je crois que Tosquelles était un peu ambivalent. D'un côté, il y avait une explosion de la notion d'aliénation et puis en même temps le fait d'insister sur quand même la dimension de la psychose qui n'est pas la même chose que le fait juste d'être aliéné comme ça dans la vie.
Désaliéner l'individu et désaliéner l'institution. Voilà. C'est ça aussi qui est très fort dans cette idée-là. Et on le voit bien quand vous disiez, Camille Ropsis, qu'il fait casser les murs de l'hôpital à Saint-Alban. C'est aussi presque pour soigner l'hôpital qui ne peut plus correspondre à ce que c'était auparavant, qui ressemblait beaucoup à une prison.
Exactement. C'est exactement ça l'idée. Donc le problème pour Tosquelles et ses amis, c'est que toutes ces institutions, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les camps, les partis politiques, même les syndicats, même les familles, enfin toutes ces institutions dont nous avons besoin, ont cette tendance de devenir hiérarchiques, concentrationnaires, oppressives. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on met en place des mécanismes pour éviter que ces tendances reviennent tout le temps. Parce que l'autoritarisme va revenir. Ça fait un peu partie, disons, de la nature des institutions. Alors, et c'est là où ils se divisent par rapport à les antipsychiatres qui disent, ben dans ce cas-là, il faut fermer les institutions. Basaglia, c'est ce qu'il essaye de faire en Italie. Et ce qu'il réussit à faire, et pour la psychothérapie institutionnelle, au contraire, il faut garder les institutions, mais les soigner. Parce que les institutions sont nécessaires, mais il faut juste essayer de les repenser et de mettre en place, encore une fois, ces mécanismes qui éviteraient ce que Jean Houry appelle la résurgence ce petit royaume.
Et oui, c'est ça. Hein. C'est un énorme combat. C'est pas ultra optimiste parce qu'il y a l'idée que l'aliénation revient toujours, en tout cas que l'institution arrivera toujours à être de plus en plus autoritaire. Il faut rester vigilant avec ce lieu absolument incroyable, il faut le dire. Saint-Alban, pendant la guerre, un hôpital où arrive en novembre 1943 un poète, Paul Éluard.
Fausses guenons et fausses araignées, fausses taupes et fausses truies, et parfois l'ombre d'une biche, sauvagement bêtes et malheureuses, timidement femmes illuminées. Ensevelies secouant leur linceul, femmes de craie, femmes de suie, brûlées le jour d'un feu nocturne, glacées la nuit par un monstre visible, leur propre image éternellement seule. Chantant la mort sur les airs de la vie, la terre leur est familière, terre sans graines, sans racines, sans la lumière agile du dehors, sans les clés d'or de l'espace interdit.
Le monde est nul, le poème de Paul Éluard, tiré du recueil de souvenirs, Souvenirs de la maison des fous, paru en 1947. Le monde est nul, lu par Max James, qui réalise aussi aujourd'hui le cours de l'histoire sur France Culture avec à la technique Florent Bujon, Camille Ropsis. Paul Éluard, Saint-Alban, pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ?
En fait, donc Paul Éluard passe la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Alban. Je crois que c'est à travers des amitiés, en fait. Je crois que c'était avec Bonafé qui, est à l'origine, c'est grâce à lui qu'il est arrivé à Saint-Alban. Mais en tout cas, il a un rôle tout à fait déterminant dans la genèse de la psychothérapie institutionnelle. Déjà, le surréalisme, en général, s'intéressait à la folie depuis longtemps. L'idée que la folie, peut-être, pouvait nous donner un moyen d'accès à une vérité peut-être plus authentique. Et puis aussi, le combat surréaliste contre ce qu'ils appelaient l'ordre absurde dans lequel nous vivons. Donc déjà, il y avait cette dimension de la folie. On peut penser aux peintres, aux écrivains, à quelqu'un comme Dali. Donc ça a toujours été que la folie a eu un rôle très important pour le surréaliste. Et puis aussi, c'était des grands lecteurs de la psychanalyse, de Freud, mais aussi de Lacan. Enfin, la pensée de Lacan s'est d'ailleurs répandue au début grâce aux surréalistes. Donc, en fait, l'amitié de Éluard avec ses médecins a beaucoup de sens, je crois. Mais en effet, ils ont beaucoup collaboré. Et en plus, c'est grâce à Éluard et aux surréalistes que certaines œuvres de Saint-Alban qui ont été produites dans l'enceinte du château, en fait, se sont retrouvées dans des musées, dans des collections, sous le nom d'art brut.
Ah oui, parce que l'art brut, c'est Saint-Alban aussi.
Voilà.
C'est toute cette création qui participe à la thérapie.
Voilà, donc en fait, les patients qui utilisaient l'art qui faisaient de l'art dans ces ateliers justement qui étaient proposés par la psychothérapie institutionnelle. Un des noms les plus connus, c'est Auguste Forestier, qui faisait de la menuiserie, enfin qui gravait des espèces de sculptures. Et maintenant, ces œuvres sont à la collection du Buffet à Lausanne, au musée d'art brut, justement. Donc, en fait, c'est Éluard qui en a ramené à Paris, qui après, ces œuvres ont été vues par des gens comme Zara, comme Tristan Zara, comme Picasso, comme Dora Maar. Et tout à coup, l'art brut commence, en fait, à cette époque. Et Jean Dubuffet va d'ailleurs à Saint-Alban pour essayer de voir si les patients peuvent lui donner certaines œuvres. Donc, des œuvres qui, l'art brut, selon lui, la définition, c'est de l'art qui se fait en dehors des paradigmes normatifs du monde artistique.
Ah, vous définissez très bien, Camille Ropsis, la définition de l'art par Jean Dubuffet, mais laissons la parole à Jean Dubuffet.
Je trouve que ce qu'on attend de l'art, et tout le monde est unanime sur ce point, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on demande, on dit d'un art qu'il est intéressant quand il est novateur, quand il est inventif, quand il apporte quelque chose de neuf, et par conséquent quand il n'est pas normal, quand il n'est pas banal. Alors, s'il faut déclarer que tout ce qui sort de la banalité est pathologique, alors on devra déclarer que tout l'art est pathologique, et qu'il est d'autant meilleur qu'il est plus pathologique. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne dans mes recherches, je n'ai pris aucune considération de ce que les médecins peuvent déclarer au sujet du plus ou moins de normalité ou du caractère plus ou moins psychopathique de l'auteur. Je conteste que ça ait aucun intérêt. J'ai écrit autrefois que, à bon sens, l'art des fous, quand on parle de l'art des fous, ça n'a pas plus de sens que de parler de l'art des malades du genou. Et j'en suis de plus en plus convaincu.
Jean Dubuffet en 1971 sur la deuxième chaîne de télévision française avec... comme musique, une musique de Jean Dubuffet, comme quoi tout est dans le buffet.
Alors, savais pas qu'il faisait.
Okay. Oh, il faisait tout. Camille Ropsy, c'est incroyable ce qui se passe à Saint-Alban à ce moment-là. On l'entend avec Paul Éluard, Dubuffet, tous ces noms qui nous associent à l'art brut, c'est très bien. Mais dans le quotidien même de Saint-Alban, il y a une révolution par rapport à ce que ça se pratiquait encore au même moment ailleurs. Comment ça se passe, l'organisation même? Les murs sont tombés, il y a tous ces ateliers, il y a toute cette création. Et dans cette hiérarchie, vous nous l'avez dit, quand il se trouve dans le camp de concentration, François Tosquelles comprend qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement formé à la psychiatrie pour aider. Et donc à l'intérieur même de Saint-Alban, on retrouve ce schéma-là.
Oui, voilà. Donc en fait, tout le monde. L'idée, c'est de faire tourner un peu tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde d'exploser ce que on a, ce que Jean Aurier va appeler les rôles fixes. Donc l'idée, c'était de que les médecins participent vraiment à la vie de tous les jours, que tout le monde déjeune ensemble, que tout le monde dorme ensemble, que tout le monde vive ensemble. Et ça, déjà, il n'y avait pas de blouse médicale. Donc on enlève et y a un but pratique et un but théorique. Le but pratique, c'est donc de que tout le monde s'intègre, si l'on veut, et de pas stigmatiser les fous. Mais en même temps, le but théorique, c'est justement de faciliter cette explosion de rôle fixe, de mettre en question sa propre identité tout le temps. Donc ils organisent énormément d'activités. Le groupe qui s'occupe de ces activités s'appelle le club, et c'est une espèce de on pourrait penser à une espèce de syndicat autogéré de patients, et c'est eux donc qui déterminent par exemple les menus de la cantine, les activités, et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une suggestion, le club organise, enfin on en parle au club. Alors par exemple, il y a un très beau film de Martine Ders qui s'appelle Les Heures Heureuses, et là on voit par exemple qu'à un moment les patients veulent partir en vacances, ils disent bah nous aussi on veut partir en vacances, donc il y a une réunion du club, on en parle, on discute, et on achète, ils ont acheté une espèce de caravane pour amener les patients en vacances. Donc tout est sujet à discussion, tout est sujet à exploration, voilà.
Et puis la question qui se pose toujours dès que l'on parle d'un monde médical est celle des médicaments.
Il y a les médicaments, c'est très important, mais vous comprenez, on ne peut pas soigner vraiment les gens si on ne les prend pas par tous les bouts, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, si on les considère seulement derrière un bureau et seulement pour leur faire une ordonnance, eh ben ça ne marche pas bien, ça ne marche pas assez. Il faut aussi les étudier, plus que les étudier, les faire vivre, leur faire prendre des responsabilités, les mettre dans un milieu qui les sorte des plis qu'ils ont pris dans leur maladie, quand ils sont tout seuls ou en famille ou dans leur travail. Or ça, c'est une véritable science que d'arriver à créer des milieux de vie qui permettent de rendre opératoires, alors, des vecteurs de soins, à proprement parler, comme les médicaments ou comme les psychothérapies.
Félix Guattari qui s'exprimait sur FR3 en 1986, c'est l'un des quatre noms qui a apparaît sur la couverture de votre ouvrage « Désaliénation », Camille Ropsis. Qui est Félix Guattari?
Donc Félix Guattari était un étudiant, quand il découvre la psychothérapie institutionnelle, est étudiant en pharmacie et il s'ennuie affreusement dans ses études. Et en fait, rencontre le frère de Jean Houry, qui s'appelle Fernand Houry, qui était son professeur de lycée, et qui était très impliqué dans un mouvement qui s'appelait la pédagogie institutionnelle, donc qui en fait évolutionnait un peu pas à pas avec la psychothérapie institutionnelle. C'était les mêmes principes, d'utiliser les questions de transfert, de symbolique, d'explosion des rôles dans le contexte scolaire de la classe. Et donc Guattari rencontre Uri. Ils ont tous été très marqués, cette deuxième génération, si l'on veut, de psychothérapie institutionnelle, avec Laborde, avec Uri, avec Guattari, ont été très marqués aussi par le Front populaire, les années 30, les auberges de jeunesse. Et donc, Guattari s'installe au château de Laborde, qui a été donc ouvert par Jean Oury. Jean Oury avait été interne à Saint-Alban, donc il y a beaucoup de liens entre Saint-Alban et Laborde, et continue à faire de la psychothérapie institutionnelle dans ce cadre à Laborde.
Ça se trouve où, Laborde ?
Alors, Laborde se trouve à Courcheverny. C'est un peu moins difficile d'accès que Saint-Alban, et je crois que cette proximité à Paris, c'est à peu près donc à 2 heures de Paris, a aussi donné une autre façade à Laborde, c'est-à-dire que les psychanalystes qui se sont installés là-bas étaient beaucoup plus proches du monde intellectuel parisien, et notamment du lacanisme. Et donc, ils allaient régulièrement au séminaire de Lacan, je crois que c'était les mercredis, et le matin se faisait analyser par Lacan, allaient au séminaire l'après-midi et revenaient en train. Et du coup, il y a eu aussi pendant les années 60, 70, Laborde est devenu un centre un peu mythique de pèlerinage pour le monde intellectuel français, où plusieurs intellectuels allaient côtoyer les patients, vivre avec eux. Donc beaucoup des cinéastes sont passés par là, des artistes comme Deligny, François Pin, enfin il y a eu beaucoup d'échanges. Et Guattari était vraiment au centre de tout ça.
Nous avons des lieux, Saint-Alban, Laborde, nous avons des personnes, François Tosquelles, Félix Guattari, Jean Oury, que nous avons cité plusieurs fois, enfin que vous avez surtout cité, vous Camille Ropsis, avec l'idée de la diffusion de ce qu'il propose, ce n'est pas évident. La psychothérapie institutionnelle, ça se limite à ces deux lieux et à ces individus?
Alors non, justement, le lieu est très important parce que d'une certaine façon, ça a vraiment, comme on l'a vu pour Saint-Alban, ça a vraiment ancré l'expérience dans un contexte. Et pareil, à Laborde, il y avait beaucoup de continuité, mais aussi des points de divergence par rapport à ce qui s'était fait à Saint-Alban. Enfin, une des expériences qui était très connue à Laborde, c'était Guattari d'ailleurs qui a beaucoup écrit là-dessus. Ça s'appelait la grille. Et ça, je crois que c'est intéressant aussi de penser à ça pour quand on essaye de comprendre ce qu'était la psychothérapie institutionnelle. La grille était en fait un emploi du temps avec le nom de tous les patients, mais aussi les moniteurs, mais c'est pas des moniteurs, c'est des infirmiers, les médecins, et puis les horaires. Et l'idée de Guattari, c'était de faire changer ces horaires. Donc, par exemple, on mettait un jour Camille s'occupait du ménage, le lendemain la pharmacie, le lendemain la vaisselle. Et donc ça évitait justement qu'on se devienne le roi de la pharmacie ou le roi de la vaisselle. Et ça faisait changer les choses.
Et toujours cette idée-là, un pas de chef, et puis désaliéner l'institution elle-même qui produit toujours des chefs et des contraintes, voilà. Et des aliénations.
Voilà, exactement. Et donc tout ça, c'était donc Laborde et Saint-Alban étaient vraiment des lieux très privilégiés. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que la psychothérapie institutionnelle, a été exportée, si l'on peut dire, un peu dans d'autres contextes, et adaptée et remaniée, parce que justement, l'idée de la psychothérapie institutionnelle, c'était de ne pas proposer un modèle figé que l'on pourrait appliquer en tant que tel, mais de repenser les bases avec les données sociologiques dans lesquelles les divers médecins se trouvaient.
Ben voilà, parmi les noms qui se trouvent sur la couverture de Désaliénation, on l'a dit, Tosquelles, Guattari et Fanon.
C'est ainsi que la labilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cowles, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. C'est très important parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique puisque, normalement, il est...
Et oui, normalement, puisque selon une considération raciale, le noir n'aurait pas d'esprit, ne peut pas être lobotomisé. Beaucoup d'humour là aussi dans ce que dit Frantz Fanon. Nous sommes au cœur des années 1950, racisme et culture. Ici, Frantz Fanon a relié avec toute l'histoire que vous nous racontez, Camille Ropsis. Pourquoi ?
Alors, Frantz Fanon arrive à Saint-Alban, en fait, donc il fait ses études de médecine à Lyon, et là, il décide de se spécialiser en psychiatrie, et déjà, il écrit donc Peau noire, masque blanc, dans les années 50, et il essaye en fait de présenter ce livre comme sa thèse de médecine, qui est refusée parce que c'est pas vraiment très technique, mettons, donc il écrit autre chose pour sa thèse, mais ce livre, déjà dans Peau noire, masque blanc, et dans une série d'articles qu'il publie dans la revue Esprit, il commence déjà à s'intéresser aux effets psychiques du racisme, du colonialisme, et aussi à la question de la causalité psychique, d'où vient en fait le fait que les Noirs, les colonisés, ont une souffrance qui n'est pas seulement sociale ou politique ou économique, mais aussi psychique. Et donc, il s'intéresse vraiment à toutes ces questions, et il arrive à Saint-Alban en tant qu'interne, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se rend compte que les expériences que Toscaïès est en train de réaliser, en fait, se rejoignent ce qu'il a lui écrit du point de vue plus philosophique, je dirais. Et il s'enthousiasme vraiment pour cette aventure. Il reste une année et demie à peu près en stage, et je crois que Toscaïès a vraiment une influence décisive dans la trajectoire de Fanon. Après, il demande son premier poste est en Algérie, à l'hôpital de Blida, et c'est là où Fanon en fait devient donc médecin-chef, et il arrive au début de la guerre d'Algérie en fait, et il commence à pratiquer la psychothérapie institutionnelle avec des patients. Et c'est très intéressant parce qu'il a des patients, il a une section de femmes d'origine européenne et une section d'hommes d'origine musulmane, et il se rend compte que la psychothérapie institutionnelle marche très bien avec les femmes d'origine européenne et pas du tout avec les hommes musulmans. Et c'est là en fait qu'il écrit un texte qui est fascinant, un texte plus médical qui n'était pas très connu en fait, mais il écrit ça avec son interne Jacques Azoulay, et il dit que le fait qu'il est arrivé de la France métropolitaine avec ses idées préconçues, je dirais, de la médecine, et qu'il a essayé les appliquer en tant que tel, et que ça, c'était une forme aussi de psychiatrie impérialiste. Et donc, il faut repenser les bases de la psychothérapie institutionnelle, ce qu'il fait en effet. Donc, il change le type de film, le type d'expérience, il invite des conteurs, par exemple, il crée le café mort, où les hommes musulmans peuvent jouer au domino, prendre un café, etc. Et petit à petit, ça commence à marcher. Les gens vont mieux. Et là, je crois que c'est très intéressant, en fait, de l'expérience de Fanon en tant que psychiatre, puisqu'après, il est chassé d'Algérie. En fait, il quitte son poste et il se retrouve en Tunisie. Et c'est au même moment où il s'implique vraiment dans les luttes anticoloniales. Donc, son activité de psychiatre suit pas à pas son activité politique et surtout le fait qu'il rejoint le FLN et qu'il lutte contre le colonialisme.
C'est fou hein, quand on entend cette histoire-là sur la chronologie très fine, se dire que dans les années 1950, Frantz Fanon en Algérie se rend compte qu'il faut prendre en compte l'univers culturel des personnes dont il a la charge, qu'on ne traite pas un patient blanc, colon et un musulman dominé. Se dire que simplement 20 ans auparavant, tous ces gens-là auraient été plus ou moins traités pareil et peut-être enchaînés à Delhi. C'est vrai que c'est cette aventure-là que vous racontez dans Désaliénation, c'est pas simplement quelque chose en marge d'expérience intellectuelle. Il y a quelque chose d'extrêmement humain, incarné et concret.
Tout à fait. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai l'impression qu'on connaissait moins le Fanon psychiatre. Maintenant, on a le très beau recueil de Jean Calfa et Robert Young sur les écrits psychiatriques. Mais quand j'ai commencé ce projet, les écrits psychiatriques de Fanon étaient à l'IMEC, donc il fallait y aller, il fallait les trouver, les déchiffrer. Et en fait, moi, Fanon, c'était quelqu'un que j'enseignais régulièrement à mes étudiants, et on enseignait plutôt les textes politiques. Et le fait de lire Fanon avec cette grille psychiatrique est très intéressant parce qu'il était autant psychiatre qu'il était politique, même, je dirais, plus. Le matin, il dictait ses textes politiques, par exemple, les Damnés de la Terre, entre 7h et 9h à sa secrétaire, et le reste de la journée, il voyait des patients. Et donc, de comprendre ces interactions, je crois, c'est vraiment fondamental pour repenser sa pensée. Et même, par exemple, un livre comme Les Damnés de la Terre, qui n'est pas à première vue un livre psychiatrique ou psychanalytique, le dernier chapitre tourne autour de certains certains cas psychiatriques, mais le reste, c'est un livre plutôt politique. Et ben en fait, je crois qu'on peut lire la psychiatrie entre les lignes de l'activisme anticolonial.
Et puis, il faut aller les chercher. Vous avez cité les archives à l'IMEC. C'est quoi l'IMEC ?
Exactement. À l'IMEC, c'est l'Institut Mémoire d'édition contemporaine. Je crois le meilleur endroit pour faire des recherches d'archives. S'il y a des jeunes historiens qui écoutent, je vous conseille tous d'y aller. C'était une ancienne abbaye. On peut dormir sur place. Il y a un chef qui cuisine des plats délicieux. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Et ils ont beaucoup d'archives, dont les archives, par exemple, de Lucien Bonafé, de France Fanon, de Guattari et puis bien d'autres.
L'IMEC, c'est dans le Calvados, en Normandie. On y est très bien. Avec, dans Des aliénations, sur la couverture politique de la psychiatrie, nous l'avons cité, Tosquelles, Fanon, Guattari et Michel Foucault.
Savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées. Et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie dans l'asile et qui constitue véritablement l'asile. Alors c'est là où ça m'est apparu. Puis
vous avez souffert à ce moment-là ?
Oui. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une souffrance qui soigne de tous les asiles. Et maintenant, voyez-vous, c'est une chose qui est connue absolument de tout le monde. Il n'y a plus qu'une arrière-garde de psychiatre à ne pas savoir quelle somme de souffrance ou de révolte porte le savoir-pouvoir.
En 1975, Radioscopie, l'émission de Jacques Chancel, qui reçoit Michel Foucault. Pourquoi Michel Foucault, là aussi dans cette histoire-là ? Parce que Michel Foucault, nous le connaissons bien pour toute sa réflexion sur l'histoire de la folie. Cette histoire-là l'a intéressé ?
Oui, alors donc Foucault, c'était un peu le personnage qui... J'étais pas sûre s'il rentrait dans la structure du livre au début, puis à la fin, je me suis convaincue que oui, en effet, mais parce qu'il n'était ni psychiatre, ni psychanalyste, et ni psychothérapeute. Dans cette perspective, il ne rentre pas exactement dans le même moule, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, comme vous disiez, sur la psychiatrie, mais aussi à la psychothérapie institutionnelle. Et je me suis rendu compte, en fait, en lisant son cours au Collège de France sur pouvoir psychiatrique, qu'il y avait une note de bas de page où il parlait des médecins de Saint-Alban. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de creuser un peu plus. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, le Foucault, même avant l'histoire de la folie, le Foucault qui, quand il est à l'école normale supérieure, se passionne de psychanalyse, de psychologie surtout, et de psychiatrie. Son premier poste d'ailleurs est en psychologie, n'est pas en philosophie. Et son premier livre, Maladie mentale et personnalité, essaye de réfléchir à cette question de l'aliénation sociale et de l'aliénation psychique. C'est clair, encore une fois, grâce à ses archives, qu'il était tout à fait en conversation avec la phénoménologie psychiatrique de les gens comme Vince Wagner, mais aussi qu'il lisait les journaux médicaux de l'époque et s'intéressait aux travaux de Tosquelles, de Bonafé, etc. Donc il a été très impliqué en fait en psychiatrie, et je crois que c'est donc après l'histoire de la folie qu'il publie en 61, il y a vraiment une lecture d'histoire de la folie d'avant 68 et d'après 68. Ça, c'est déjà une expression que Robert Castel avait utilisée, le Foucault d'avant 68 et le Foucault d'après 68. Le Foucault d'avant 68 était vu par les psychiatres dont ceux qui pratiquaient la psychothérapie institutionnelle, ils appelaient souvent Foucault un des nôtres. Donc, Foucault avait aussi parlé de la dimension politique de la psychiatrie, comme on l'a entendu dans cette archive, du fait que la psychiatrie était une forme de pouvoir, etc. Donc, dans ce cas, ils se rejoignaient sur cette question. Mais après 68, il y a eu une espèce de coupure, je dirais, entre les psychiatres et Foucault. Pas tellement à cause de Foucault lui-même, mais je crois à cause de l'utilisation qu'on a fait d'Histoire de la folie en 68 et le fait que ce livre était tellement important, était devenu une sorte de bible pour l'antipsychiatrie, où tout le monde disait, oui, la folie est une, comme on l'a entendu dans l'archive, un effet de pouvoir-savoir, et que donc si on renverse le pouvoir-savoir, on en finit avec la folie. Évidemment, c'est plus compliqué, les théories de Foucault, mais il y a eu un peu de ça. Et Foucault a été accusé dans un des colloques psychiatres de psychiatricide, donc de vouloir tuer la psychiatrie et de justement pas réussir à prendre en compte cette dimension de l'aliénation, la dimension médicale de l'aliénation.
Avec, dans cette démarche que vous nous exposez, Camille Ropsis, depuis tout à l'heure, des choses qui aujourd'hui nous paraissent comme des évidences. Il y a l'aspect révolutionnaire du moment, il y a tout ce qui a pu être contesté, vous l'avez bien dit, avec l'antipsychiatrie, puis il y a tout ce qui paraît du bon sens. Et ça, c'est encore très très présent.
Oui, il y a certaines, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, il y a certaines techniques de la psychothérapie institutionnelle qui ont été intégrées au système de santé d'aujourd'hui. Par exemple, même l'idée de secteur, de sectorisation, a été à la base de la psychothérapie institutionnelle. Le fait de, et puis il y a d'autres aspects qui, comme vous dites, paraissent tout à fait évidents et pourtant, on est revenu, je crois, enfin, l'état de la psychiatrie actuelle n'est pas particulièrement réjouissant et je crois qu'on est revenu justement à plusieurs endroits où on attache les patients, où les médicaments sont utilisés comme une, ce que Jean aurait appelé une médecine vétérinaire, donc c'est-à-dire d'anéantir les symptômes et de les laisser comme des légumes. Donc je crois que tout ça, il y a des dimensions qui sont passées et d'autres qui malheureusement pourrait revenir encore aujourd'hui, il nous serait utile de retourner sur cette histoire.
Ah ben, retourner sur cette histoire, et notamment en vous lisant, Camille Ropsis, des aliénations, mais toute la réflexion même intellectuelle qui est liée et qui nous concerne tous, vu que potentiellement nous sommes tous un peu fous. Non mais sur même la réflexion sur ce qu'est le fascisme et où se trouve le fascisme. Bien sûr, contexte de la Seconde Guerre mondiale, et là on voit très bien comment la réflexion sur le fascisme peut être portée par tous ces penseurs, mais aujourd'hui encore, le fascisme est en nous.
Oui, ça c'est un thème qui a été très cher à Guattari et à Gilles Deleuze dans leur livre Anti-Oedipe qu'ils ont publié en 72. Donc, ils le disaient que c'était un livre qui essayait de prendre en compte la révolution avortée de 68. Donc, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette révolution, selon eux, où on a vu jaillir un certain désir dans la société, a été réprimée par les syndicats, les partis politiques, les ouvriers eux-mêmes en fait, qui ont décidé de signer les accords de Grenelle, de se contenter d'avoir des meilleurs conditions de travail, des meilleurs, au lieu de, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, de pousser la révolution jusqu'au bout, mais c'était un peu ça. Et donc, la question du fascisme, et Foucault écrit une très belle préface à l'Anti-Oedipe en anglais, où il dit qu'il y avait la question du fascisme historique, d'Hitler, Mussolini, mais aussi du fascisme qui hante nos têtes. Donc, c'est-à-dire le fascisme qui est en nous, qui nous conduit à désirer ce pouvoir, à désirer d'être opprimé, non seulement à devenir autoritaire, mais aussi à subir l'autoritarisme. Donc, il y a cette double dimension, je crois, qui est très, très importante pour la psychothérapie institutionnelle. Et je termine le livre un peu sur une réflexion ouverte. Qu'est-ce que ça pourrait dire aujourd'hui pour nous de quels outils peuvent nous être utiles pour penser nos politiques aujourd'hui, et comment est-ce que l'on peut essayer de mettre en place justement un collectif, un commun, non pas au sein de l'hôpital mais peut-être au sein de la société, avec certaines de ces outils qui nous ont fournis et dont par exemple le rôle de l'inconscient pour la psychothérapie institutionnelle, prendre en compte l'inconscient dans le politique et dans le social était le moyen pour éviter que le groupe se renferme sur lui-même, éviter que justement il y ait ces hiérarchies, ces petits royaumes, ces forces opprimantes qui reviennent tout le temps.
Et oui, c'est en cela que la réflexion qui est portée depuis le milieu du XXe siècle par tous ces penseurs est intéressante. Je dis penseurs parce qu'il est question ici de lutte contre certains pouvoirs, contre certaines dominations. Mais Camille Ropsis, c'est une histoire particulièrement masculine.
Oui, et ça, c'était une question que j'ai souvent eue quand je travaillais là-dessus. Et où étaient les femmes? Eh bien, il n'y en avait pas énormément. Et ça, ça m'a intéressée aussi d'une certaine manière parce que je pense que ce qu'on peut faire, c'est ne pas présenter cette histoire comme une espèce d'agiographie de tout était super, d'éviter justement le syndrome des grands gourous et plutôt voir comment ils peuvent nous offrir des pistes de réflexion qui doivent être repensées, remaniées, comme Fanon d'ailleurs l'a fait en Algérie, dans ce contexte postcolonial, comme vous disiez, de prendre en compte en fait ce qui semble évident aujourd'hui, de prendre en compte le fait que les patients musulmans ne parlaient pas la même langue, n'avaient pas les mêmes cultures que les patients français avec qui ces expériences s'étaient développées. Mais donc de penser comment nous pouvons mettre sur la scène des questions d'autres références, par exemple autour du genre, autour de la race, autour de d'autres questions, et voir ce que la psychothérapie institutionnelle peut nous apporter aujourd'hui dans cette version remaniée, si je veux dire.
Voilà. Et puis en conservant toujours cet humour, parce que c'est évidemment, et on l'a entendu avec Michel Foucault, un univers qui est extrêmement dur, extrêmement difficile, avec beaucoup de souffrance, mais ceux et celles qui ont porté cette histoire le font avec beaucoup d'humour, et on l'a entendu, je pense, à travers les archives, notamment François Tosquelles. C'est très très drôle, hein. Un peu de provocation quand même. Hein.
Il était toujours très drôle, c'est pour ça que je vous dis, il n'est jamais très clair ce qu'il dit, mais je crois que ça faisait partie de sa stratégie.
Bah vous êtes très clair, Camille Ropsis, des aliénations, la politique de la psychiatrie, cette psychothérapie institutionnelle, c'est publié au Seuil. Merci beaucoup. Et quant à nous, nous sommes au seuil de la chronique de Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment Philippe Pétain a-t-il mis fin à la guerre du RIF ? Philippe Pétain est l'un des personnages les plus connus de notre histoire contemporaine en raison du rôle qu'il a joué pendant la Première Guerre mondiale, puis comme chef de l'État français entre 1940 et 1945. Mais on oublie que, dans l'intervalle, il a été à la tête des troupes engagées dans la guerre coloniale que la France a menée au Maroc de 1925 à 1927. Le conflit avait débuté dès le début du XXe siècle et, au départ, il concernait principalement l'Espagne. Depuis le milieu des années 1900, les Espagnols avaient tenté d'étendre leur contrôle sur la région du Rif, située au nord-est du Maroc, afin de protéger les ports qu'ils exploitaient sur les côtes de la Méditerranée. Mais les tribus qui composaient la société rifaine se révoltèrent. En 1909 et 1910, elles infligèrent aux Espagnols une série d'humiliantes défaites. Après la Première Guerre mondiale, Abdelkrim el-Khattabi, qui avait fait partie de l'administration espagnole en tant que cadi, c'est-à-dire en tant que juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, organisa la résistance en regroupant les tribus au sein d'une république du Rif. Pour mettre fin à leur rivalité traditionnelle, Abdelkrim joua la carte religieuse en ré-islamisant le Rif. Le droit coranique remplaça alors le droit coutumier. Cette stratégie lui permit de remporter une nouvelle victoire contre le corps expéditionnaire espagnol en août 1921. Ce fut l'un des plus grands désastres militaires subis par une armée coloniale. En présentant son mouvement comme une lutte de libération nationale, Abdelkrim parvint à obtenir le soutien du mouvement communiste, car le Comintern imposait au parti de la Troisième Internationale de lutter pour l'indépendance des prolétariats coloniaux. Mais Abdelkrim fut pris dans un terrible engrenage, car il ne s'agissait plus seulement désormais d'interdire le Rif à l'Espagne. Le but était de remporter un djihad contre le sultan du Maroc, qui était un allié solide des Français, car ces derniers protégeaient son statut sacré de commandeur des croyants. L'indépendance du Maroc et la déposition d'un sultan soumis aux étrangers s'imposèrent rapidement comme les véritables buts de guerre d'Abdelkrim. La France, qui avait imposé en 1912 son protectorat sur le Maroc, réagit à cette menace en décidant d'intervenir massivement dans le conflit aux côtés des troupes espagnoles dirigées par un certain Franco. Auréolé de son prestige acquis pendant la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain écarta Hubert Lyautey, le premier résident général du protectorat français, et transporta au Maroc les méthodes de la guerre européenne. Dès la nomination de Pétain, le corps expéditionnaire français reçut des dizaines de milliers d'hommes en renfort. C'est un véritable corps d'armée, largement équipé en artillerie et en avions, qui reprit possession du Rif en écrasant la petite troupe de la République rifaine, forte de 5000 guerriers tout au plus. Après la défaite, Abdelkrim dénonça à la Société des Nations le rôle des aviations espagnoles et françaises dans cette guerre, car elles n'avaient pas hésité à répandre des gaz toxiques, les fameux gaz moutarde, sur les douars et les villages du Rif.
Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Doruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.